Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui ce n'est pas de cinéma dont nous allons discuter, mais de théâtre. Alors que le Festival d'Avignon 2020 n'aura pas lieu, nous nous replongeons dans l'édition 2019 avec Denis Lavant, acteur dans la pièce La Dernière Bande de Samuel Beckett, mise en scène par Jacques Kosinski. Célèbre pour être l'acteur fétiche de Léos Carax dans Les Amants du Pont-Neuf ou Holy Motors, ayant joué pour les cinéastes Claire Denis, Amaury Corinne ou Pierre Scheller, Denis Lavant est aussi un fidèle des planches. Dans La Dernière Bande, l'acteur saltimbanque interprète Crap, le seul personnage de la pièce de Beckett. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui réécoute sa voix parlant de son passé, enregistré et rangé dans une boîte qu'il sort à chaque anniversaire. Un matin ensoleillé, je rejoins Denis Lavant, si musical et flèche dans le dos. Il vient d'écumer la brocante de la place des Carmes d'Avignon. Bonjour Denis Lavant.
Bonjour.
Alors pour commencer, quel rapport entretenez-vous avec l'œuvre de Samuel Beckett?
C'est quand même un artiste, un grand écrivain. Quoi, qui a été très très loin dans une quête personnelle. Quoi. Dans le noir, quoi. À l'inverse de Joyce. Et moi je le connais depuis longtemps en fait. J'ai toujours adoré son humour, parce qu'il a à voir avec le burlesque en fait. Sinon le clown, mais en tout cas ce truc-là de personnages qui sont un peu décalés, qui sont marginaux, asociaux, qui sont dans une sorte de solitude. Et donc il trimballe un peu ce burlesque. D'ailleurs, du reste, il a fait un film, Beckett, avec Buster Keaton. Vous voyez ? Un truc qui s'appelle Film, c'était sur la fin de la vie de Buster Keaton, et qui n'est pas du tout un film drôle, mais où il utilise la silhouette de Buster Keaton, un peu les slapsticks. Il fait tout un truc, mais dans son rythme très très lent, quoi. Et ça donne un peu le ton, quoi. Et en même temps, il est aussi... c'est un grand littéraire, qui connaît très bien la littérature de beaucoup de pays, quoi, des classiques. C'est classique, comme on dit. Et il y a une figure qui est très inspirante chez Beckett, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup marqué. C'est dans la Divine Comédie de Dante. Il y a au purgatoire, il y a un être qui s'appelle Bellacqua et qui est au purgatoire simplement parce que il a aucune volonté de faire quoi que ce soit, de faire ni le bien ni le mal. Il est dans une sorte de prostration, de dire ouais, non, en fait, non, ça vaut pas la peine. À quoi bon, quoi. C'est une sorte de à quoi boniste avant du tronc, quoi. Et Beckett, tous ces personnages, ils sont un peu, c'est un peu la matrice de ces personnages, qui sont dans une grande inertie et en même temps qui carburent à fond, qui sont pas inertes, qui sont pas des, au contraire, qui ont une pensée très active, mais qui sont une sorte de prostration, quoi, d'immobilisme, parce que trop de pensée, quoi.
Est-ce que toutes les pièces de Beckett travaillent sur le même registre au théâtre?
Oui, parce que le premier spectacle qu'on a fait, il y a 2 ans, avec Jacques Kosinski, c'était un autre texte de Beckett, qui fait partie de ses derniers textes, et qui s'appelle Cap au pire. C'est vraiment ses derniers textes, c'est pas un texte de théâtre, c'est une sorte de long tissu, d'une sorte de navigation, et qui commence... Et là, du coup... Comme il n'y avait pas de didascalie, ce n'était pas fait pour le théâtre. Donc comme les ayants droit de Beckett sont assez scrupuleux par rapport à leurs engagements, par rapport à l'œuvre de Beckett. Donc on avait fait ça de façon minimaliste, c'est-à-dire j'étais carrément debout sur une sorte de carré blanc qui s'illuminait, debout face au public, et pendant 1h30, sans bouger, et à défiler le texte, il dit « encore, dire encore ». Soit dit encore, tant mal que pis encore, jusqu'à plus mèche encore, etc. Jusqu'à plus mèche encore, quoi. Et ça s'appelle Whose World Who. Ça, je suis très mauvais en anglais, excusez-moi. Mais en fait, c'est un texte qu'il a écrit en anglais pour le coup, qu'il n'a pas traduit lui-même. Mais c'est vraiment dans ces trois derniers. Ma vue mal dit, Cap au pire, soubresaut. Et ça vraiment, c'est un engagement, une navigation. Très crépusculaire, quoi, vers le néant. Et donc là, on était pour le coup dans un vrai immobilisme, mais seulement avec la parole qui était présente tout le temps, quoi. Qui donc aussi la pensée, quoi. Et là, c'est un autre mode par rapport à la dernière bande. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu de paroles directes. C'est très limité. Il doit avoir 4 pages de paroles. C'est-à-dire quand il cherche la bande, quand il cherche dans le dictionnaire, et puis la fin quand il se met à enregistrer. Donc c'est très très court. Et tout le reste, c'est presque un acte muet, quoi. Et pour moi, ça me dérange pas, quoi. Et effectivement, on a choisi, c'est-à-dire tout ce qu'on joue avec ce qu'on a défini dans la mise en scène avec Jacques Ozinski, c'est quand même exactement ce qui est inscrit par Beckett. Sauf qu'on a pris le parti, la proposition de Jacques, c'est de vraiment jouer chaque chose, chaque moment concrètement, pas essayer d'aller dans une fluidité ou un naturalisme. C'est-à-dire là, Krapp demeure un moment immobile, donc on joue à fond, c'est le début, pousse un grand soupir, regarde sa montre, farfouille dans ses poches. Voyez, et là, par exemple, de la même manière, il sort une banane, sort une grosse banane, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche, se retourne, s'avance jusqu'au bord de la scène, s'arrête, caresse la banane, l'épluche, laisse tomber la peau à ses pieds, met le bout de la banane dans sa bouche et demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. Donc c'est ces moments qu'on a choisi de jouer complètement, quoi. De les prendre. Et du coup, ça installe vraiment un rapport au présent pour le spectateur. C'est pas un acte, parce que ça peut jouer de façon beaucoup plus ramassée, comme généralement ça peut durer 3/4 d'heure cette pièce.
Ces moments, est-ce que vous les allongez en fonction des représentations ou peut-être qu'ils sont fixes?
ils sont fixes, oui et non. C'est-à-dire à partir du moment où je commence à par me taire et être dans l'immobilité, il y a le rapport au temps qui devient complètement subjectif. Mais finalement, comme on les a définis en répétition, en mettant des paramètres, hein, c'est-à-dire en disant « Ah oui, tu peux durer encore plus » ou « Oh là, c'est commence à faire un peu long, quoi. » Et donc, à mon avis, il y a organiquement, pour moi, à force de le jouer, il y a un peu une mesure. C'est-à-dire, la pièce, elle dure sensiblement à peu près le même temps chaque fois, quoi. Et donc, j'ai un peu cette notion-là. Mais c'est vrai que c'est particulier au début et puis ces moments-là de prostration, parce que j'ai pas de...
À quoi pensez-vous à ces moments-là face au public?
À tout. C'est-à-dire, il y a tout, en même temps c'est libre. Donc effectivement, je vois le public, j'essaye de m'évader, c'est-à-dire de trouver un interstice entre les spectateurs, de pas être dans le regard des spectateurs, quoi que ça peut arriver, et en même temps d'être conscient de ma respiration, de mon corps, de mon immobilité, d'être dans de chercher un calme et en même temps d'être dans une pensée de vagabonder en fait. De vagabonder. Et en même temps d'être dans un rapport en disant bon, jusque-là ça va, allez, je pousse encore, bon, il va être temps que. Et puis de laisser venir la cessation de ce moment-là, quoi, le soupir. Mais c'est. Oui. C'est ouvert, c'est d'être là, puis d'être s'absenter, puis d'être là, quoi, un peu comme on... Mais de chercher, en fait, cette qualité de moment qu'on peut éprouver, qu'on peut vivre vraiment, généralement, quand on est seul. On peut rester, justement, rentrer dans une pensée et s'en foutre de ce qu'il y a autour. Sauf que là, effectivement, je suis conscient qu'il y a 150 regards qui sont braqués sur moi, quoi.
Qu'avez-vous compris du personnage de Krapp? Est-ce que vous l'avez peut-être interprété à votre manière?
Comment ça? C'est pas une question de le comprendre, quoi. C'est... De toute façon, c'est interactif. Généralement, une partition, un texte comme ça, moi, je me déplace vers le personnage. Il y a, en fait, ce que donne Beckett dans la bande enregistrée et dans ce qu'il va enregistrer, c'est des éléments qui concernent la vie de ce personnage, dans l'état de ce personnage, dans l'état de solitude, et puis de... En fait, on trouve un personnage, là, au moment de la pièce, il fête son anniversaire, c'est un rituel d'anniversaire, en fait. C'est chaque fois, pour son anniversaire, depuis des années, il écoute une bande, une vieille bande qu'il a enregistrée, il en enregistre une. Et là, c'est 69 ans. Et il écoute une bande qu'il a enregistrée 30 ans auparavant. Ou il parle d'une bande qu'il a lui-même enregistrée 12 ans auparavant. Donc 42 ans auparavant. Donc ça fait part de trois moments de sa vie, en fait. Donc ça donne ça. En fait, le tout, ça, ça raconte quelque chose d'une tranche de vie, d'une grande période de vie d'un personnage, donc d'une personnalité, et qui avance. Et en même temps, ce qu'il y a de particulier avec la bande enregistrée, c'est que la voix enregistrée, elle remet dans un présent. Et donc c'est ça, c'est un écho d'un présent d'une autre époque par rapport à... Il est toujours, comment dire, dans une attitude critique, en étant plus âgé, par rapport à ce qu'il a enregistré les années d'avant, quoi. Donc c'est particulier. C'est, pour moi, je me déplace vers ce personnage, je suis pas crape. Je suis à l'affût de... comment dire ? Déjà, le travail le plus important, c'était d'enregistrer la bande, de rendre crédible cet enregistrement d'un type de 39 ans, de faire vraiment la différence, de trouver une énergie, un rythme, une sorte d'aplomb, même de prétention un petit peu, qui est autre que celle qu'il a à 69 ans. Donc c'est deux étapes déjà à gérer. Ensuite, effectivement, pour moi, c'est de rentrer dans un rythme qui est décrit par Beckett. En fait, moi, je me mets au service de la partition. C'est-à-dire, il dit qu'il voit mal, qu'il entend mal et qu'il a une démarche laborieuse. Et donc, je me suis appliqué à faire ça. Et pour ce fait, par exemple, un truc qui est absolument concret, qui paraît idiot, mais c'est comme ça que je travaille, j'ai trouvé des chaussures dans une brocante à Paris, des vieilles chaussures de l'armée américaine, comme des chaussures que je disais sur le... Et je me suis dit, ah voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. C'est en même temps des belles chaussures et en même temps qui sont bien, qui sont raides, dans lesquelles on est un peu engoncé et qui m'aident à avoir cette démarche qui est un peu chaplinesque aussi, mais un peu de vieux qui est un peu laborieuse en fait, comme c'est décrit. Donc c'est d'utiliser un peu tous les éléments du texte et aussi de voir moi, comment ça retentit chez moi. C'est-à-dire émotionnellement aussi. Comment le fait que ce que je comprends en fait, parce qu'il me touche dans ce texte, c'est quand même un texte qu'il a écrit en hommage à une femme qu'il a aimée, qu'il a beaucoup aimée, et qui est morte d'un cancer. Donc il y a cette chose-là de se souvenir des yeux, du regard, de se souvenir d'un... En fait, c'est « Adieu à l'amour ». L'intertitre qu'il met pour la bande qui va écouter... En dernier, il y a « Maman en paix, enfin », »,« La balle noire », »,« La boniche brune », »,« Légère amélioration de l'état intestinal », »,« Mémorable équinoxe » et « Adieu à l'amour ». Et donc, c'est quand même... Et c'est ça qu'il va rechercher dans la bande. Il va chercher cette bande parce qu'il veut écouter ce moment où il était encore dans une relation amoureuse et qu'il a décidé d'arrêter pour se consacrer à son œuvre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'authentique et d'autobiographique de la part de Beckett, mais en même temps, il le met, il le stylise, il le transpose dans un personnage, dans crap, qui veut dire nul, en anglais, non ?
Alors ça dépend comment c'est écrit.
Ah oui, c'est écrit K-R-A-2-P.
Crap en anglais, ça veut dire merde.
C'est merde, d'accord. Voilà, c'est Monsieur Merde. Ouais, Ducati. Hein.
Comment vous préparez-vous pour jouer la pièce tous les jours ?
Ben, rien, je fais rien. C'est parce que, si vous voulez, à chaque spectacle, il y a un peu une manière différente d'aborder. Plusieurs fois, quand j'ai fait des grands monologues comme Cap au Pire, j'avais quand même une heure et demie de texte, ma manière de me rassurer, de me préparer, c'était de 3 heures avant le spectacle, de me dire tout le texte. De marcher, par exemple, ici à travers la ville, puis de me dire tout le texte pour le préparer, quoi, comme pour chauffer mon instrument, quoi, pour me rassurer, pour remâcher le texte. Et là, dans un cas comme ça où j'ai pas du tout de texte, très peu de texte, il s'agit d'être dans l'acte, de condenser du présent. Je m'efforce de rien faire. Surtout de ne pas penser, de ne pas préméditer la pièce, de ne pas répéter, mais d'arriver disponible pour plonger dans cet état-là, quoi. Donc c'est assez particulier, parce que je n'ai pas grand-chose à quoi me raccrocher, sinon de me calmer. Et j'arrive une heure avant au théâtre, je m'habille. Souvent, je mets mes affaires en plat. Si, la seule préparation importante que je fais, il faut que j'y pense, c'est d'acheter des bananes. C'est-à-dire, tous les jours, je fais un casting de bananes dans les différentes épiceries. J'essaie de trouver des bananes qui me plaisent, qui soient assez grosses, pas trop grosses quand même, bien, quoi, qui se tiennent. Ça paraît rien, mais c'est... Des fois, c'est pas évident tous les jours. Des fois, il n'y a pas les bananes qui conviennent.
De quoi avez-vous discuté avec Jacques Ozinski pour aborder cette partition de Beckett?
À partir du moment où on était d'accord pour faire ce texte ensemble, et moi, je trouvais ça super bien, après cap au pire, de faire une autre approche de Beckett, surtout à travers ce matériau qui est vraiment écrit pour le théâtre. En fait, la première chose qui m'a proposé et qui donne quand même le ton du spectacle, c'est effectivement de prendre vraiment en compte tout cet acte muet, tout le début de la pièce particulièrement, qui peut être très réduit, et en fait de dilater le temps, d'entrer dans un rapport au temps qui n'est pas un temps quotidien, qui n'est pas un temps raisonnable. Et c'est vraiment ça l'enjeu principal. Après, effectivement, on a lu le texte ensemble, on s'est questionné sur des mots. Lui, il a pris le texte anglais en regard aussi, pour vraiment essayer de scruter la partition, de la comprendre le mieux possible. Et puis aussi d'essayer d'aller à une forme de pureté, de pas avoir d'idées toutes faites sur la manière, sur le ton. Parce qu'effectivement, à travers le personnage, moi, j'ai vu jouer déjà dans d'autres mises en scène. Et au premier abord, on pourrait penser qu'il y a un ton qui est un peu cynique. Et dans sa manière, dans son ricanement, quelque chose qui est ironique un peu. Et en fait, on a essayé d'éviter ça, d'aller plutôt, par exemple, un truc qui est très clair pour moi, qui a été précieux. À la fin, il dit, quand il enregistre l'album, il dit « Sois de nouveau, toute cette vieille misère, une fois ne t'a pas suffi. » Coule-toi sur... Et rien que ce groupe de mots, une fois ne t'a pas suffi, moi, je l'ai dans l'oreille, j'ai pu l'entendre avec quelque chose de... une sorte de d'ironie un peu cynique, comme, ah oui, tu vois, t'es bien avancé, une fois, avec un ton convenu. Et en fait, si on le prend, si on va au sens plein du terme, c'est dans cette affirmation, dans ce que ça... Oui, t'as besoin de revivre les choses une autre fois. C'est-à-dire, une fois... Ça suffit jamais. T'es obligé d'enregistrer pour dédoubler le temps. Il y a tout ça, quoi. Donc, c'est plus on va au cœur du sens des phrases et des mots, plus, à mon avis, ça retentit largement, quoi. Et pour ça, Jacques Ozinski a un regard et une écoute qui est très, très fine, très précieuse, en fait.
Quels ont été les retours du metteur en scène pour ajuster votre jeu?
Souvent, à l'issue des représentations, c'est de témoigner de par rapport à des paramètres, de dire par exemple là ça a été un peu vite, ou c'est pas assez, ou l'enregistrement il est pas assez intime. C'est vraiment ça, d'essayer de, parce que c'est délicat, quoi. On a dans cet exercice solitaire le danger, c'est d'avoir peur d'ennuyer les gens. Donc de raccourcir les pauses ou de théâtraliser, c'est-à-dire de jouer plus pour le public que particulièrement. Et puis il y a des paramètres, effectivement, de vraiment plonger dans un truc, un exercice solitaire, c'est-à-dire dans l'écoute, d'être au premier degré de l'écoute. Donc ça, c'est délicat, parce que le danger, ça peut être de surjouer l'écoute, d'illustrer l'écoute. Et l'enjeu, mais ça, c'est... Chaque soir, en fait, ça se définit un petit peu. C'est vraiment d'aller chaque fois, la nouveauté de ça, de cet état d'écoute et de l'enregistrement. Et aussi des temps de songerie, de les condenser vraiment. Par exemple, à l'issue de la représentation, hier, Jacques m'a dit « Ah, t'as été un peu vite dans les déplacements. t'es un peu trop vif. » Je dis « Ah ouais, peut-être. » Après, c'est difficile de... Donc, c'est vraiment c'est sur des notions, des paramètres assez précis, assez fins comme ça. Mais, pour moi qui sont très subjectifs. C'est chaque représentation. Et puis il y a d'autres représentations des fois où il y a des représentations où les gens rient. Ils rient beaucoup au début, mais moins après. Il y a des représentations où les gens ils sont vraiment dans, ils perçoivent l'humour de Beckett, de la situation. Il y a des représentations qui sont complètement silencieuses. Pour moi, c'est un peu une épreuve. Et puis, il y a moi, je ne sais pas, au cœur de ce truc, de ce personnage, de cette situation, des fois, je ne sais pas du tout comment c'est appréhendé par le spectateur. Il y a des fois où j'ai pu croire que les gens, ils étaient pas là, ils s'emmerdaient, c'était hostile. Puis à la fin, ils étaient ravis, quoi. Et plusieurs fois, Jacques m'a dit, ah ouais, c'est vraiment... C'est exactement ça, quoi. Et des fois même, moi, je me sens juste d'exécuter cette partition, et qu'il y a une émotion qui est patente, qui parvient au spectateur. Donc, de toute façon, c'est aléatoire. Hein. C'est du théâtre.
Est-ce que vous vous ajustez aussi en fonction de ces réactions différentes des spectateurs ?
Je m'ajuste pas. J'essaye de pas être influencé par ça. C'est-à-dire de continuer, vaille que vaille, ma route. Il y a des moments, forcément, il y a des repères où, des fois, sur telle réplique, les spectateurs, ils réagissent, ils rient. Et si à une fois, ils ne rient pas, je ne vais pas me laisser déstabiliser. Ou si je ne vais pas essayer non plus de les encourager dans la rigolade. Par exemple, il y a une fois, le pire réaction du spectateur qui m'a un peu, comment dire, et forcé à réagir, à me définir, c'est à un moment donné une représentation où il y avait trois dames d'un certain âge qui venaient manifestement se divertir sur mon dos et qui parlaient entre elles dès le début, qui étaient dispersées, quoi. Et au moment où je glisse sur la banane, je la repousse dans le public, elles étaient au premier rang, ce qu'elles trouvent à faire, c'est dire « Oh !» et puis qu'elles me rejettent la banane sur scène. Et là, dans ma tête de crabe, je dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Normalement, je suis seul, il n'y a pas de spectateur. Normalement, il écrit, il pousse la banane dans la fosse d'orchestre. Je n'ai pas de fosse d'orchestre, là. J'ai réfléchi assez vite, j'ai fait le constat, je dis, bon, si je la rejette, la peau, elles vont me la rejeter encore. On ne va pas en finir tout spectacle. On va faire une improvisation. Ça peut être drôle, mais on va perdre de vue le sujet. Et donc, j'ai poussé sous le bureau. La peau de banane. Et ça n'a pas loupé après. La deuxième fois, quand j'achète directement la deuxième peau de banane, et bien, immédiatement, elles m'ont rejeté. Là, je les ai ignorées totalement. Parce que c'est... Après, ça dénature le spectacle, quoi. Donc, c'est ce genre de truc. Donc, c'est pas d'être... Et pour chaque spectacle, c'est pas d'entrer en complaisance dans l'humeur du spectateur, mais de les amener, de canaliser quand même le truc vers ce qu'on veut raconter. En utilisant cette énergie, cette attention qu'il y a en face, quoi. Et cette humeur. Mais pas en étant jamais en complaisance, quoi. En sculptant plutôt, en canalisant l'humeur et en étant le plus possible imperturbable dans cette solitude-là. Il y a beaucoup de bruit, hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir réattendre votre bande.
Quel est votre secret pour contrôler votre corps au maximum pendant la pièce ?
Bah, j'ai pas de secret. C'est presque un. Déjà, moi, j'ai quand même, avec ma pratique et ma formation, j'ai quand même une maîtrise physique qui est assez. Qui est bonne. J'ai beaucoup travaillé sur le mime, l'acrobatie, la danse. Donc, j'ai une conscience de mon corps qui est assez. Ouais. Qui est très présente, quoi. Et ça me gêne pas du tout d'être immobile. Après, c'est un exercice mental. C'est d'accepter l'immobilité. C'est pas de se contraindre. C'est brusquement de partir là-dedans, quoi. Forcément, des fois. Et donc, c'est aussi... Tout part de la respiration, quand même. Moi, je fais pas du yoga. J'aime pas ça. Le truc de la respiration forcée. Mais je suis conscient De trouver du calme en moi. Et puis en fait, c'est quand même tout le temps relié par l'imaginaire. À partir du moment où ça continue à s'agiter, à bouger dans ma tête, donc à être dans une dynamique, c'est quand même être dans l'immobilité, de rester dans une dynamique de pensée, ou même physique. C'est pas de, c'est pas d'être affaissé, c'est d'être là. Et tout est tenu par le regard, parce qu'il y a encore qui est en mouvement, c'est-à-dire la pensée. Donc c'est réduire le mouvement général, physique, à un mouvement intérieur, interne, y compris avec la respiration, quoi. Et c'est, voilà, c'est pas un secret, c'est juste d'en avoir conscience, quoi. C'est une, comme ça que je pratique.
Est-ce que vous venez chaque année au Festival d'Avignon ?
Non, mais c'est pas systématique. J'y vais depuis longtemps, depuis le début des années 80, où j'ai fait de la Comédia dell'Arte, j'ai été dans le IN, j'ai été dans le OFF, j'ai été un peu... j'ai bien arpenté la ville, quoi, et les théâtres, hein, et j'ai vu, ouais, peut évoluer le festival aussi, et, mais j'y vais quand on me demande, en fait, quand la production dans laquelle je suis, et ouais, j'appréhende un peu, mais en même temps, je suis toujours content d'y être, parce que j'aime bien cette ville. Et bon, après, je trouve que le festival, c'est devenu une sorte de chose de boursouflure terrible. Mais bon, des fois, ça peut m'agacer, ça me met en colère. Déjà, le hiatus indécent qui est entre l'abîme qui est entre le in et le off, entre le privilège, le confort, l'argent qui est mis dans le in et dans des lieux qui sont utilisés qu'une fois par jour pour un spectacle. Et la manière dont, dans le off, les salles reçoivent une dizaine ou une quinzaine de spectacles par jour, qui est une sorte de succession comme ça, on n'a pas le temps de s'installer, quoi. Et c'est pas le même régime, et tout le monde est en train d'afficher, de tracter. C'est pas dans le même truc, en faisant le même métier, il y a deux régimes différents, quoi. C'est un peu un... Pour moi, c'est un peu un reflet de la société dans laquelle on est, aussi.
Cette distinction, voire ce fossé entre le in et le off, est-ce que c'était pas déjà présent
ça, ça a toujours été comme ça, mais je trouve que l'abîme s'est accru entre le in et le off. Ouais. Ça aurait pu, pour moi, j'aurais rêvé à un moment donné de remettre ça en question, à un moment donné où il y a eu des grèves très intenses pour les droits des intermittents, en 2003. Mais en fait, ça a été détourné. Le propos a été détourné, le festival a été clos. Et ça a été, on a vraiment complètement noyé le poisson. Alors que pour moi, c'était exactement là qu'il y avait un problème à régler. De trouver un statut équitable par rapport à l'ensemble du festival. Donc forcément, le in, il y a des produits. C'est, en fait, là où je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que le festival est entré dans un truc de plus en plus commercial. C'est-à-dire de vanter des produits qui sont mis en valeur. La plupart des spectacles du IN, de toute façon, ils sont joués, ils sont achetés, ils sont vendus. C'est des spectacles qui vont tourner. Dans le OFF, c'est la foire, où il y a des spectacles comme le mien, effectivement, qui sont déjà amenés à être joués ailleurs, et des gens qui viennent trouver des acheteurs, qui viennent proposer leur travail, leur création, et donc qui en sont souvent pour leur argent. Et après, c'est pas tout à fait. Tout le monde n'a pas les mêmes chances, quoi. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai fait du cinéma. Donc, j'ai une image un peu médiatique. Et forcément, les gens, ils vont venir voir ce que je fais au théâtre aussi pour ça. J'ai pas besoin de tracter, forcément. Y a quand même mon nom qui parle. Et le travail que j'ai fait auparavant. Puis il y a des gens qui sont complètement inconnus, qui sont obligés de faire la retape. Mais et le off, c'est en même temps étrange, monstrueux, et en même temps c'est drôle. C'est qu'on retrouve toute la palette possible du spectacle vivant. Il y a aussi bien du stand-up que des pièces très intellectuelles, des pièces baroques, que des trucs très amateurs. Il y a vraiment tout le panel possible. Donc c'est... En même temps, ça peut... Pendant... Quand je vais à Avignon, ça me révolte un peu. Et en même temps, une fois que j'y suis, je trouve ça marrant. Je trouve qu'il y a quand même une sorte de chose qui est très aimable, en tout cas, qui circule, qui est assez solidaire et fraternelle, qui circule parmi les gens du off. Et ça, c'est ça qui est chouette.
Avez-vous le temps d'aller voir des spectacles du festival ?
J'ai pas été voir grand chose. Non, parce que comme je joue, j'ai été voir un ami Je vais voir des amis surtout. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie que je vienne voir le spectacle. J'étais voir un ami qui s'appelle Ovnatan Abedikian, qui joue au Girasol, un spectacle qui s'appelle Europa, d'après un auteur qui est mort récemment, que j'ai découvert, ce qui m'a fait découvrir, qui s'appelle Aziz Chouraki, qui est vraiment intéressant. Il fait une sorte de solo avec un musicien. Il fait plein de personnages. J'ai été voir des amis qui sont sur la Barthelas, les baladins du miroir, une troupe foraine belge avec qui j'ai travaillé quand j'étais môme. Donc je vais les voir, c'est un peu la famille aussi. J'ai été voir un truc très bien, un couple qui fait un truc de trapèze, de portée de trapèze autour d'Eric Satie, qui sont près du musée Calvet, dans un musée qui s'appelle L'Heure Séculaire, très très beau, que j'ai eu à 7h du matin, mais je vois 9h aussi le soir. Et un truc qui m'a épaté, ils ont terminé hier. C'est une compagnie de trapèze volant et qui font un spectacle. Le titre c'est en anglais, ça s'appelle Hurt Me Tender, n'est-ce pas? Allez l'accent. Et ils font du cirque, quoi. Trapèze volant, très très performant, mais tout ça est mis en scène dans une humeur rock. C'est-à-dire, c'est pas qu'une performance circassienne, c'est vraiment, ils jouent quelque chose, ils tiennent une sorte de densité, de jeu un peu inquiétant, de voyous un peu genre West Side Story, un peu, je dis très mal ça, West Side Story, mais sans la musique, sans le côté chorégraphié, un peu un truc de bas-fond un peu. Le truc, en plus, avec, ils commencent au sol, et le rapport entre les corps des porteurs, qui sont des mastards, hein, et les voltigeurs, qui sont tout fluets. Il y a une sorte de jeu comme ça, d'agression, de tendresse, d'étreinte, de baston. C'est très très beau, quoi. Ils le tiennent admirablement, je trouve. Et à travers ça, ils font des trucs de trapèze volant, quoi. Des figures qui sont quand même très périlleuses. Et j'ai trouvé ça admirable.
Si vous n'allez pas voir des spectacles la journée, qu'est-ce que vous faites ?
Je me promène, je rencontre des gens, je mange des huîtres, je vais pas mal au bouquiniste, je me pose. Là, juste ici, quand même, j'avais une lecture à préparer en plus, au Théâtre des Carmes, que j'ai fait le 18, donc ça m'inquiétait un peu, quoi. Et puis, voilà, là, je suis tranquille, je suis presque en vacances. Mais bon, ça me mettait vraiment l'impression, quoi. Une lecture d'un texte qui s'appelle L'acte d'amour, un jeune auteur qui s'appelle Yann Caracchio. Il m'est proposé, où je fais plein de personnages. Et qui est un très beau texte, et donc que je tenais vraiment à faire entendre, mais quand même, c'était une sorte de performance, parce que c'était très peu répété, et pour moi, c'était assez risqué comme, comme prestation. Mais j'ai fait, ça s'est hyper bien passé. Donc maintenant, j'ai des journées un peu plus vacantes, quoi. Mais du coup, ça passe vite. C'est quand même toute la journée est sous-tendue par le fait qu'il y a la dernière bande à faire à 9h30. Et donc, faut pas s'énerver. Mais souvent, je bouquine, je tourne, je fais plusieurs tours de ville, je cherche des bananes, je me nourris, je rencontre des gens. Voilà. Il y a plein de choses à faire, quoi.
Selon vous, quelle serait la bonne raison d'aller voir la dernière bande ?
Comment dire ? Pour moi, c'est de trouver un écho à son propre passé. Parce qu'en fait, c'est à ça que ça ramène. Moi, c'est à ça que ça me ramène. À n'importe quel âge qu'on ait, on n'a pas besoin d'avoir 69 ans, c'est brusquement d'avoir cette conscience-là de, comment il dit, toute cette misère. C'est-à-dire tout cette manière dont la présence humaine à un moment donné, n'importe quel moment de la vie, c'est comme un iceberg où il y a le présent qui est là, qui est très très court, très éphémère, et il y a déjà du passé, des souvenirs, de la mémoire qui est derrière soi, ou qui s'accumule, qu'on transporte avec soi. Et c'est cette notion-là, cette conscience-là qui est énorme, je trouve.
Et enfin, pour finir, quel texte de Beckett conseillez-vous pour découvrir cet auteur ?
Moi, il y a une... Il y a un livre, un roman de Beckett que j'adore, qui, où il y a vraiment tout, tout ce ton-là, il y a un personnage, il y a de l'humour, il y a d'une conscience tragique de l'existence, c'est Molloy. Molloy. Voilà. Et sinon, il y a fin de partie, et qui est une pièce, qui a peut-être le projet de le faire avec Jacques ensuite, qui est la pièce que je préfère de Beckett.
Voilà. L'année prochaine, peut-être.
Ou dans 2 ans, qui sait.
Eh bien, merci, Denis Lavant. Bonne journée à vous.
Avec plaisir.